Nous sommes un peuple fier.
L'indépendance est un fait acquis.
Nous n'avons pas l'âme d'esclave.
Des peuples entiers ont été vidés de leur culture.
Décolonisation dans le sourire.
Laissez entrer les peuples noirs sur la grande scène de l'histoire.
Décolonisation.
Et s'accélère la ronde des révoltes et des indépendances africaines.
Vous connaissez la dernière chanson à la mode ?
Indépendance, tcha tcha, Tosouiye, Otipaza, tcha tcha, Toubakine.
Pierre Aski.
Pour comprendre le présent, plongeons-nous dans le passé. France Inter vous invite à découvrir ou redécouvrir les personnages historiques qui ont marqué un certain nombre de pays africains. Aujourd'hui, Agostinho Neto, premier président de l'Angola.
Proclame solennellement à
France Inter
et au monde à l'indépendance d'Angola.
Pour nous accompagner dans ce voyage dans le temps et dans l'espace, Yves Léonard, historien, enseignant à Sciences Po, dont il est membre du Centre d'Histoire.
Rando la Villa Morena.
Lisbonne, dans la nuit du 24 au 25 avril 1974, la chanson Grandola Villa Morena retentit sur les ondes de la radio catholique Renaissance.
Dentro de ti, oh cidade, o povo é quem mais ordena.
C'est le signal qu'attendaient les militaires pour renverser la dictature portugaise en place depuis 40 ans.
Em cada esquina um amigo. Em cada...
Le coup d'État l'emporte et marque la fin du régime instauré en 1933 par António Salazar et poursuivi à partir de 1968 par Marcelo Caetano. La révolution des œillets, comme on surnomme la fin du régime salazariste, a des répercussions à des milliers de kilomètres de là, en Afrique, là où le Portugal mène des guerres coloniales d'un autre temps. Les plus surpris sont les hommes qui, de Paris à Alger, Conakry et Lusaka, mènent la lutte pour l'indépendance des colonies portugaises. Parmi eux, Agostinho Neto, le dirigeant du mouvement populaire pour la libération de l'Angola. Agostinho Neto devient, un an et demi plus tard, le premier président de l'Angola indépendant, à l'issue d'un long combat auquel il consacre sa vie, avec sa part d'ombre et ses moments victorieux. Ce 11 novembre 1975, les habitants de Luanda, la capitale angolaise, n'ont pas le cœur à la fête. Le son du canon se fait entendre aux portes de la ville. L'Angola a plongé dans la guerre civile. Une guerre qui prend aussi la forme d'un épisode marquant de la guerre froide entre Américains et Soviétiques. L'Angola est la pièce maîtresse de l'Empire portugais en Afrique. Le Portugal compte 5 colonies. L'Angola, le Mozambique, la Guinée-Bissau et les îles atlantiques du Cap-Vert et de São Tomé et Príncipe. À la fin des années 50 et au début des années 60, l'émancipation est en marche dans la majeure partie du continent, avec la fin des empires britanniques et français. Le Portugal, lui, s'accroche. Pas question de céder au mouvement. Lisbonne veut prouver qu'il n'y a pas de sens de l'histoire. En 1958, le Ghana est déjà indépendant, suivi de la Guinée. Au même moment, le commandant de l'armée coloniale en Angola, le colonel Daslaviana Rebelo, déclare « Nous sommes ici pour y rester.
Nous respectons ce qui se dit, ce qui se fait ailleurs. Mais en ce qui nous concerne, les questions d'autonomie et d'émancipation ne se posent pas. Et nous sommes très vigilants pour qu'il en demeure ainsi. » Dès que le colon se fixe, comme c'est le cas maintenant, nous sortons toujours gagnants. Or, c'est précisément ce qui importe. Gagner la partie avec l'afflux de Portugais.
En fait, c'est tout le glacis d'Afrique australe qui résiste à cette vague historique. Angola et Mozambique portugais, Rhodésie, Namibie et Afrique du Sud, solidement tenus par des minorités blanches. Il y a dans ces pays des peuplements européens importants. Entre 200 et 300 000 colons portugais pour le seul Angola. Ils sont actifs dans la culture du café, du coton ou dans le secteur minier. Cet immense territoire, grand comme deux fois et demi la France, est portugais sur sa bande côtière depuis quatre siècles. Il a d'abord servi de vivier d'esclaves à destination du Brésil. C'est finalement devenu une colonie de peuplement au XXe siècle, comme l'était l'Algérie pour la France. Mais Salazar n'est pas de Gaulle, il ne lâchera rien. En 1961, au moment où la France décolonise, le dictateur portugais est très clair.
On entend réclamer à grands cris à l'étranger l'indépendance de l'Angola. Mais l'Angola est une création portugaise et elle n'existe pas sans le Portugal. La seule conscience nationale enracinée dans cette province n'est pas une conscience angolaise, mais portugaise. Il n'y a pas d'Angolais, mais des Portugais d'Angola.
À Lisbonne, une poignée d'étudiants africains n'est pas du tout de cet avis. Parmi eux, Agostinho Neto, le fils d'un pasteur méthodiste en Angola. Il a donné à son fils une éducation occidentale. Cultivé, poète à 16 heures, le jeune homme obtient en 1947 une bourse pour aller étudier la médecine au Portugal. Il y rencontre d'autres jeunes issus des colonies au sein de la Maison des étudiants de l'Empire, dont il devient le secrétaire général. Il fréquente aussi des membres du Parti communiste portugais clandestin. C'est la seule force politique totalement anticoloniale. Il attire très vite l'attention de la PIDE, la redoutable police politique portugaise, avec ses réseaux de surveillance et ses interrogatoires musclés. Il effectue un premier séjour de 6 mois en prison pour avoir fait signer une pétition. Ça ne sera pas le dernier. La poésie est, selon Agostinho Neto, un vecteur de reconquête culturelle pour les jeunes Africains privés d'identité.
Au début de sa jeunesse, il vivait sous le colonialisme.
Eugénie, rencontrée à cette époque et avec laquelle il se marie en octobre 1958, le jour de l'obtention de son diplôme de médecin.
Et dans ses poèmes, il, non seulement il dénonçait, comme il incitait à la transformation qui s'imposait pour l'avenir. Il a été tellement grand, mais en même temps très modeste, très simple, très humain.
Quand je suis revenu, quelque chose de gigantesque était en mouvement dans le pays. Les hommes récoltaient.
Agostinho Neto participe à la vie associative étudiante. Il fait partie des fondateurs dès 1951 d'un centre d'études africaines secrètement anticolonial. Il retourne en prison en 1955 et ne doit sa libération qu'au soutien d'intellectuels français. Devenu médecin, il rentre en Angola et ouvre un cabinet. Mais il est rapidement repéré comme militant anticolonial. Retour à la case prison en 1960. Détenu au Portugal, il parvient toutefois à s'enfuir en juin 1962 avec l'aide du Parti communiste portugais. Il n'y remettra les pieds qu'après la révolution de 1974. Il rejoint de jeunes métis très actifs dans le monde culturel. Le Portugal encourage le métissage et y voit la démonstration dans cette mixité humaine qu'il est légitime sur le sol africain. Parmi les nouveaux compagnons de Neto, il y a Viriato da Cruz. Il est l'animateur d'une revue littéraire dans ce monde culturel qui n'est jamais très éloigné de la lutte politique. Il est, avec un autre métis, Mario de Andrade, le premier dirigeant du mouvement populaire pour la libération de l'Angola, le MPLA, à sa création en 1956. Agostinho Neto, un noir, et Lucio Lara, un blanc, rejoignent ensuite la direction du mouvement. Cet équilibre ethnique est important dans la société coloniale où la couleur de peau détermine la place sociale. L'horizon est bouché par un colonialisme inflexible. La lutte armée semble la voie à suivre pour ces rebelles, à l'image de l'Algérie. En février 1961, un groupe armé attaque la prison de Luanda, premier acte d'un conflit qui dure 13 ans. Les représailles portugaises sont terribles. Le territoire plonge dans un cycle de violence infernale. Fin mars, sur France Inter, le ton est différent.
Quoi qu'il soit impossible de préciser le nombre des victimes européennes et africaines, toutes les sources s'accordent à reconnaître qu'il est très élevé, de l'ordre de plusieurs centaines, voire de plusieurs milliers.
Le Portugal décide d'envoyer à Luanda, pour un temps indéterminé, son ministre de l'Outre-mer, M. López Alves, très populaire en Angola.
C'est en effet la seule façon pour le Portugal de répondre à un défi d'une exceptionnelle gravité.
Le monde prend ainsi conscience de l'existence de cet espace colonial qui s'accroche, avec sa répression, ses privilèges. France Inter, 25 mars 1961.
Les Portugais disent, vous le savez, l'Angola n'a rien à voir avec les autres pays d'Afrique. En Angola, les Noirs et les Blancs ont les mêmes droits.
Et c'est vrai, à la lettre. Il n'y a pas de racisme en Angola. Il n'y a pas de séparation entre les Blancs et les Noirs. La séparation est ailleurs. Les riches ont tous les droits, les pauvres n'en ont aucun. Or, les pauvres, ce sont les Noirs et les petits Blancs. Ce sont les Noirs et les petits Blancs qui ont organisé les émeutes de Luanda. Et l'on pouvait croire qu'il se dessinait en Angola un mouvement révolutionnaire contre le régime Salazar, un mouvement qui grouperait justement les Noirs et les petits Blancs. C'était encore vrai la semaine dernière. Mais les derniers événements risquent de donner un autre sens à ce qui se passe en Angola. Car cette fois, ce sont des Blancs qui ont été massacrés par des Noirs. Le racisme fait donc son apparition en Angola, c'est un phénomène nouveau, et il est encore impossible de dire s'il fera tache d'huile ou s'il restera localisé à la frontière du Congo.
Nous sommes avec l'historien Yves Léonard, auteur notamment d'une thèse intitulée « Salazarisme, nationalisme et idées coloniales au Portugal ». Alors, en quoi la nature du colonialisme portugais est-elle différente de celui des Français ou des Britanniques ?
Alors, elle l'est d'abord dans le discours tenu par les autorités portugaises par l'antériorité. C'est un point qui revient souvent, c'est-à-dire que les Portugais considèrent qu'ils ont ouvert de nouvelles voies. Ils ont, comme dira le poète Camoens, donné de nouveaux mondes au monde. Donc, ils ont précédé les autres. Donc ça, ce thème de l'antériorité est très, très important. Ensuite, et c'est aussi un discours qui va venir prendre de l'importance dans les années 50, c'est le discours lusotropicaliste, c'est-à-dire la thèse selon laquelle le Portugal aurait colonisé différemment, autrement dit de manière suave, comme il dit, de manière douce, ce qui évidemment est une illusion. Et puis, c'est une colonisation qui est particulière parce qu'elle s'appuie sur une base démographique qui est faible, c'est-à-dire qu'à aucun moment, sauf dans les dernières années, il n'y aura pas de colonisation, de peuplement. Ce sont souvent des comptoirs. On a parlé d'empire thalassocratie, une thalassocratie qui est effectivement constitutive de l'empire portugais de l'Inde, qui se constitue au XVIe siècle. Et on voit bien que le Portugal n'a pas les moyens démographiques de nourrir un autre type de colonisation, qui les rend, disent-ils, non comparables, singuliers par rapport aux Britanniques et aux Français.
Alors, en 1960, une bonne partie de l'Afrique accède à l'indépendance. Mais le Portugal persiste et signe. Quelle est sa principale motivation ? Est-ce qu'elle est économique, idéologique ?
Alors, elle est des deux. Surtout, elle a été très idéologique. C'est-à-dire que pour le régime salazariste, il y a un narratif qui est fait, un récit national qui est écrit au fil du temps, dès les années 1930, qui consiste à dire que le Portugal n'est pas un petit pays. Il n'est pas un petit pays parce qu'il est à la tête d'un grand empire colonial, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Et Salazar dit finalement, je prolonge l'œuvre de l'infant Henri commencée au début du XVe siècle. Donc de la prise de Ceuta en 1415 à Salazar en 1940, il y a une continuité. Donc cet élément idéologique est très prégnant, très fort, à tel point qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la question ultramarine devient la pierre angulaire, l'objectif principal de la diplomatie portugaise. Tout doit être conditionné à la préservation de l'empire colonial. Mais il y a aussi des considérations économiques. Les considérations économiques, c'est en fait une présence de groupes économiques portugais, industriels, qui ont investi au fil du temps dans les provinces d'outre-mer, notamment la CUF, qui est un grand conglomérat portugais. Et cette dimension va prendre une nouvelle ampleur à la fin des années 1950. C'est là qu'on parle d'un colonialisme tardif, c'est-à-dire ce moment où les autorités salazaristes essayent de mettre en place une colonisation, on va dire, de peuplement, c'est-à-dire d'envoyer des colons blancs en Afrique portugaise. Et puis, les groupes industriels sont invités à investir plus massivement pour développer les infrastructures. Donc, les années 60 sont aussi marquées par cette dimension économique.
Alors, comment les événements violents de 1961 en Angola sont-ils vécus au Portugal ? Les Portugais sont-ils conscients de ce qui se passe dans leur colonie ?
Alors, ils en sont conscients de manière, évidemment, par le prisme de l'information qui leur est délivrée. Et ce prisme, évidemment, déforme la réalité. En 1961, c'est le début des guerres coloniales, en Angola notamment, et la presse est le bon récepteur et diffuse une information biaisée sur ce qui se passe. Autrement dit, les événements qui se déroulent en février et mars 1961 en Angola sont présentés comme des actes terroristes. Et là, on retrouve tout ce discours qui fait l'essence du régime salazariste. Le Portugal est une nation une et indivisible, le grand Portugal, la splendeur du Portugal. Et donc, tout doit être mis en œuvre pour défendre ce qui constitue l'essence du Portugal. Parce que sans les colonies, dira Salazar, eh bien, il n'y a pas de Portugal. Le Portugal cessera d'exister.
Mokolo kolo ki mena mena kyango maputo. Mokolo kolo ki mena mena kyango maputo. Mshimu kanu di lola bumaku.
Wawe.
Décolonisation. Pierre Aski sur France Inter.
David Zé, un chanteur en langue kimbundu qui célèbre les racines culturelles angolaises. Il sera tué lors d'une purge politique après l'indépendance en 1977. Agostinho Neto devient donc le chef du MPLA au moment où débute la lutte armée. Un historien britannique raconte qu'après son évasion de prison, le jeune Angolais arrive au siège londonien d'Amnesty International en poète à lunettes et à l'expression perplexe.
En poète à lunettes et à l'expression perplexe. Puis, de façon inattendue, il s'élève au rang de commandant de la guérilla et trésorier du mouvement de libération populaire. Il poste en Zambie ses camps de brousse et les fournit de son mieux en armes qui remonte la piste de terre de 1500 km depuis Dar es Salaam.
Mais le MPLA n'a pas le monopole de la lutte anticoloniale. C'est la grande différence avec les autres colonies portugaises et c'est la tragédie de l'Angola. Au Mozambique, par exemple, la lutte est menée par le seul Frelimo, en Guinée-Bissau, par le PAIGC d'Amilcar Cabral. Mais l'Angola est écartelée. Trois mouvements se disputent le leadership nationaliste. Chacun a une base régionale et culturelle et développe des alliances internationales rivales. Le MPLA d'Agostinho Neto, lui, regroupe largement les élites urbaines, métisses, et les Noirs qu'on appelle assimilés. Il s'inscrit à gauche, ne serait-ce qu'en raison de ses liens avec le Parti communiste portugais clandestin. Il cherche d'abord un soutien du côté du principal voisin de l'Angola au nord, le Congo ex-belge. Mais ce bastion pro-occidental refuse le marxisme du MPLA. Neto est expulsé de Kinshasa. Il trouve asile à Brazzaville, dans l'autre Congo. Après la révolution dite des Trois Glorieuses en 1963 et le virage à gauche. Là, il se tourne désormais ouvertement vers le monde soviétique et ses alliés pour obtenir aide militaire et soutien politique. La deuxième formation politique émergente se nomme le Front National de Libération de l'Angola, le FNLA. Il a son siège et ses soutiens à Kinshasa, auprès du dictateur pro-occidental Mobutu Sese Seko. Il défend, lui aussi, la lutte armée comme le MPLA.
Tout le monde sait que le Portugal est, disons, le colonialisme le plus rétrograde, parce qu'on voit des puissances comme, coloniales comme la France et la Belgique, les Anglais qui se retirent, mais tandis que le Portugal, dans toutes ses possessions, il s'accroche.
Holden Roberto, 20 mai 1965.
Alors, je ne vois pas jusqu'à présent quelles sont les possibilités qui nous sont offertes de pouvoir arriver à, des négociations, c'est-à-dire à de voie pacifique. Comme j'ai dit, la lutte armée nous a été imposée. Et jusqu'à présent, c'est le seul moyen qui nous reste.
Enfin, le troisième mouvement, l'UNITA, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, est né d'une scission du FNLA. Il a pour base régionale le sud de l'Angola, au sein des populations Ovimbundu. Son fondateur et leader est Jonas Savimbi, fils d'un instituteur, parti lui aussi étudier au Portugal. Il a connu à Lisbonne Agostinho Neto. Mais il rejoint dans un premier temps le FNLA à Kinshasa avant de faire sécession. Mao décide de le soutenir par hostilité vis-à-vis de l'URSS qui aide le MPLA. La Chine soutient également le FNLA pour les mêmes raisons. Les schismes du monde communiste alimentent les divisions au cœur de l'Afrique. La rivalité de ces trois mouvements devient vite irréconciliable. Agostinho Neto, Holden Roberto et Jonas Savimbi incarnent trois visages de l'Angola, trois réseaux de soutien internationaux, trois avenirs contradictoires. Cette concurrence nationaliste et les clivages idéologiques freinent la lutte contre les Portugais. Le combat est mené en ordre dispersé. Agostinho Neto s'en plaint en 1968. L'Organisation de l'Unité africaine vient de reconnaître le gouvernement en exil formé par ses rivaux.
Les principales difficultés sont d'ordre politique à l'extérieur du pays.
Poussé par plusieurs pays progressistes, l'organisation panafricaine finit par reconnaître le MPLA et lui apporte son aide. Sur le terrain, leurs armées de guérilla mènent la vie dure aux troupes portugaises. Le Portugal, l'un des pays les plus pauvres d'Europe, doit consacrer des sommes considérables à son budget militaire. Salazar fait jouer la solidarité atlantique. En pleine guerre froide, il met en avant la dimension idéologique de sa guerre contre des mouvements marxistes. Il menace de remettre en question la présence de l'OTAN dans l'archipel portugais des Açores, un emplacement stratégique au cœur de l'Atlantique. Le dictateur portugais obtient ainsi l'aide des Américains et de l'OTAN. Les membres européens de l'Alliance protestent mollement. Cette implication de l'OTAN contribue un peu plus à pousser les mouvements de libération africains dans les bras des soviétiques. Dans les années 70, la tension monte encore. L'armée portugaise consacre des moyens de plus en plus importants à la lutte contre les insurrections nationalistes dans ces territoires d'Afrique. La guerre devient de plus en plus brutale. Les Portugais suivent des modèles anti-insurrectionnels classiques. Ils regroupent les villageois dans des camps fortifiés pour éviter qu'ils aident les guérilleros. La guérilla s'enlise. Les mouvements n'ont pas les moyens de l'emporter face à une armée coloniale mieux équipés. Dans le cas de l'Angola, les divisions des organisations et des dirigeants pèsent sur l'action anticoloniale. Plusieurs tentatives de les réunir sont menées par les États africains indépendants, sans succès. L'issue de la guerre anticoloniale ne viendra donc pas d'une victoire militaire. Elle surgira d'ailleurs de Lisbonne, ce 25 avril 1974, de la révolution des œillets. Parmi les principales motivations des militaires portugais qui décident de renverser la dictature, mettre fin aux guerres coloniales épuisantes et ruineuses. Les forces politiques qui sortent de la clandestinité ou de l'exil au Portugal poussent à la décolonisation rapide. Longtemps exilé à Paris, Mário Soares, le dirigeant socialiste portugais, regagne enfin Lisbonne. Il est nommé ministre des Affaires étrangères du gouvernement provisoire. Il sera plus tard Premier ministre, puis président de la République.
Nous proposons des négociations directes avec les mouvements de libération.
Il explique à la télévision française, dès le mois de mai 1974, sa vision de la décolonisation.
Je pense que le Portugal n'a rien à perdre et a tout à gagner. Parce que le pouvoir que le Portugal a dans ce moment dans les colonies, c'est un pouvoir illusoire.
Certains Portugais s'accrochent à l'idée d'une simple autonomie pour les colonies, à l'image de la communauté du général de Gaulle en 1958. Mais d'Ottawa, où il se trouve le jour du coup d'État, Agostinho Neto met les choses au clair. Comme promis par Mário Soares, des négociations s'ouvrent enfin avec les mouvements de libération. L'incertitude politique à Lisbonne pousse à régler le plus vite possible la question coloniale, malgré sa complexité. Pour l'Angola, les négociations aboutissent en janvier 1975 aux accords d'Alvor, signés par le Portugal et les trois mouvements nationalistes africains. Ils prévoient l'accession à l'indépendance de l'Angola le 11 novembre de la même année, un délai très court. Nous retrouvons l'historien Yves Léonard qui nous accompagne dans cette traversée. Quelle place les guerres coloniales occupent-elles dans la décision des militaires de mettre fin au régime salazariste le 25 avril 1974 ?
Alors une place essentielle. C'est un fait fondateur finalement de la révolution des œillets. C'est parce qu'il y a les guerres coloniales, parce qu'il y a cette présence militaire en Afrique, que le 25 avril va être pensé, organisé, construit par ces jeunes officiers qui sont sur le terrain, qui ont été longtemps sur le terrain et qui considèrent qu'il n'y a pas d'issue autre que politique à cette affaire, à cette impasse militaire dans laquelle se trouve plongé le Portugal dans les années 1960. Donc c'est véritablement le creuset de cette révolution des œillets parce que c'est le détonateur, parce que c'est la volonté de mettre fin à la guerre coloniale. Et puis aussi parce qu'ils se sont nourris, ces jeunes officiers, durant leur présence sur le terrain, d'une réflexion qui a commencé à mûrir dans les années 1960. Ils se sont progressivement, sinon politisés, mais acquis une culture politique au contact, justement, de ces populations et au contact de ces leaders indépendantistes contre lesquels ils se battent. Donc c'est cet ensemble très, très particulier qui va être à l'origine du soulèvement, du coup d'État du 25 avril 1974.
La décolonisation s'effectue en un temps très court après la Révolution. Est-ce qu'elle a été bâclée ou n'y avait-il pas le choix ?
Alors, on dit souvent que la colonisation et la décolonisation sont l'envers et le revers de la même médaille, c'est-à-dire le colonialisme, et qu'il n'y a pas de bonne colonisation, il ne peut pas y avoir de bonne décolonisation. Et les Portugais, les autorités portugaises, après le 25 avril, se sont trouvés confrontés à une réalité très particulière, 13 ans de guerre coloniale, dont il fallait sortir rapidement, avec une volonté très claire des autorités. Le ministre des Affaires étrangères portugais de l'époque, Mário Soares, très clairement le dira, il fallait faire le cessez-le-feu dans un premier temps et puis se mettre à négocier avec des interlocuteurs qu'il connaissait, qu'il avait appris à connaître pendant ses années d'exil, pendant ses années d'opposition au régime salazari. Donc il y a cette volonté très forte de réaliser rapidement la décolonisation.
L'influence communiste au sein du mouvement des forces armées portugais a-t-elle pu jouer en faveur du MPLA, qui était pro-soviétique, ou le Portugal s'est-il montré neutre dans cette transition compliquée par les divisions entre les trois mouvements ?
Effectivement, l'influence de ce qui se passe à Lisbonne est assez grande, parce que, d'une part, on l'a dit, même les leaders indépendantistes, ça a été une surprise, cette révolution des œillets, c'est ce qui a été le déclencheur, ce qui a accéléré le processus de décolonisation. Et c'est vrai qu'au sein du mouvement des forces armées, certains penchaient du côté de l'Union soviétique, certains ouvertement se réclamaient du Parti communiste, et en Angola même, il y avait un amiral, qu'on a surnommé l'amiral Rouge, qui était une personnalité extrêmement déterminée à peser en ce sens, en le sens de soutenir un peu le plus le MPLA. Mais à contrario, et Mario Soares l'expliquera par la suite, se dédouanera aussi de cette lecture qui consisterait à dire voilà, on a été jugé parti. Il a dit nous n'avions pas à peser indéfiniment sur le destin que les Angolais devaient se choisir. Autrement dit, et c'était l'idée qu'il a défendue pour promouvoir les fameux accords d'Alvor qui ont été signés en janvier 1975 et qui enclenchent le processus qui va conduire à l'indépendance en novembre 1975, il va essayer de construire un accord tripartite avec les trois principaux mouvements qui rivalisent déjà en Angola. Et donc essayer d'être équanime, d'être assez distant des uns et des autres. Évidemment, la réalité sera beaucoup plus complexe parce que sur le terrain, un certain nombre de militaires, une fois cet amiral parti en janvier 75, eh bien, essayent d'être neutres, mais effectivement, la présence du MPLA, les liens qui se sont constitués font qu'il y a des affinités électives aussi qui s'expriment à ce moment-là.
Akwe tombote kambadiam, bundu jose jupangejam, tuatu banetu ni mushima, kene kimosh, yenye wakuvala, yenye yokidi, kidi aishietu, anandenge ondo dimuka, ondo kwenda kiambote gina, kiamboto njila, jila yetu. Yenye ingi banza, yenye ingi sota, ditale nupe, balu muken, ingi mono mutu kiambote gina.
Décolonisation.
Tuzwe lombote.
Pierre Aski.
Tushi kongoma.
Sur France Inter.
Tupanga mwangola.
Les accords d'Alvor, donc, signés dans une ville d'Algarve, au Portugal, ouvrent une nouvelle page de l'histoire de l'Angola. Ils mettent fin à la guerre en fixant l'indépendance du territoire le 11 novembre de la même année. Un gouvernement d'union nationale avec les trois mouvements rivaux est créé. Il s'installe à Luanda, le 31 janvier 1975. Les accords prévoient aussi des élections à une assemblée constituante, la fusion des trois armées de guérilla en une seule force nationale et une rotation des trois mouvements à la tête de l'État. Rien, évidemment, ne se passe comme prévu. La cause ? Les appétits de pouvoir personnel, les jeux d'influence de la guerre froide et la convoitise que suscitent les matières premières et les richesses du pays, notamment le pétrole et les diamants. Tous ces facteurs contribuent à plonger l'Angola dans ce que l'historien Amadou Koné qualifie de « répugnante déchirure ». L'accélération des événements est spectaculaire. Le MPLA connaît une crise interne. Agostinho Neto est contesté par un autre dirigeant, Daniel Chipenda, qui parvient à l'évincer avant d'être lui-même exclu. Le MPLA est affaibli au moment le plus décisif. Par ailleurs, le FNLA est instrumentalisé par Mobutu. Le dictateur zaïrois ne veut pas voir les marxistes s'installer à sa porte. Il mobilise la terre entière. En juin 1975, à sa demande, quelques 200 conseillers militaires chinois arrivent à Kinshasa pour former de nouvelles troupes pour le FNLA. La CIA américaine a donné sa bénédiction. Enfin, l'UNITA de Jonas Savimbi signe des accords séparés avec l'armée portugaise dans le sud. Les deux autres partis l'accusent de jouer la division. L'UNITA multiplie aussi les contacts avec les Sud-Africains. On est encore à l'époque de l'apartheid. Et l'Afrique du Sud s'inquiète de ce changement stratégique en Afrique australe. Elle s'engage militairement dès le mois d'août. Tous les ingrédients de la tragédie sont réunis. La guerre civile est inévitable. Les premiers incidents éclatent à Luanda, quelques jours seulement après la mise en place du gouvernement provisoire. Ils opposent le MPLA à ses propres dissidents, puis aux autres mouvements. Les armes pour le FNLA arrivent de Mobutu et à travers lui des Américains. Et pour le MPLA, l'approvisionnement est soviétique. Le 23 mars, moins de deux mois après le début de la transition, le MPLA et le FNLA s'affrontent dans la capitale. On compte 20 morts. Ce n'est qu'un préambule. Les combats reprennent le mois suivant. Ils font cette fois 2000 morts, un carnage. Un territoire immense,
grand comme à peu près deux fois un tiers la France, 1 246 700 km², deuxième producteur mondial de diamants.
Pendant des semaines, l'Angola vit au rythme des cessez-le-feu vite violés, de massacres ailleurs dans le pays, de tensions politiques et militaires. Les colons portugais quittent presque tous le pays, une simple valise à la main, comme les pieds noirs d'Algérie 13 ans plus tôt. On les appelle les retornados. Leur départ marque l'effondrement d'une administration et de services publics que les colons contrôlaient. Luanda, une ville portuaire située dans une baie spectaculaire, s'enfonce dans le chaos. Un impressionnant mouvement de population se produit. Les Angolais les plus pauvres s'installent dans les logements abandonnés par les Portugais et des déplacés de la brousse s'installent dans d'immenses bidonvilles, les Museke, autour de la capitale. Les combats tournent à l'avantage du MPLA qui parvient à chasser ses deux rivaux de la capitale. Le FNLA se retire dans ses fiefs du nord et l'UNITA au sud. Agostinho Neto et ses amis sont seuls maîtres de Luanda. Ils déclarent l'indépendance sans partage le 11 novembre. C'est un immense pas, mais ils sont encore bien loin de contrôler le pays. Ils sont encerclés de toutes parts. Le jour de l'indépendance est sinistre. La guerre fait rage aux portes même de la capitale. Le célèbre reporter polonais Richard Kapuściński était présent à Luanda ce 11 novembre 1975. Il raconte.
Un silence de plomb régnait sur la place. D'une tribune, Agostinho Neto a lu le texte proclamant la République populaire d'Angola. Il avait la voix brisée et a dû s'interrompre à plusieurs reprises. Quand il a terminé sa lecture, des applaudissements et des ovations ont retenti dans la foule invisible. Il n'y a pas eu d'autre discours. Les lumières de la tribune se sont éteintes, les gens se sont momentanément dispersés et se sont volatilisés dans les ténèbres. Les canons se taisaient sur le front du nord. Mais soudain, les soldats qui se trouvaient dans la ville se sont mis à tirer des salves pour célébrer l'événement. La nuit, gagnée par un tumulte chaotique, s'est animée. À l'hôtel Tivoli, Oscar a sorti du coffre-fort une bouteille de champagne qu'il avait réservée pour l'occasion, ainsi qu'une bouteille de whisky. Nous étions les plus anciens résidents de l'hôtel, une poignée de vétérans. Au lieu de nous rendre sereins et joyeux, l'alcool n'a fait qu'accentuer notre épuisement et notre abattement. À bout de force depuis longtemps, Oscar a réagi à l'alcool par une crise de désespoir. Si c'est ça l'indépendance, je me tire une balle dans la tête. Mais sentant probablement que ses propos étaient déplacés, il a éclaté de rire puis s'est tu, et pour finir, il s'est endormi, la tête sur la table au milieu des verres vides.
C'est donc Agostinho Neto qui incarne cet Angola indépendant dans un climat particulièrement grave. Le chef du MPLA, de son côté, prononce un discours de guerre et non la promesse de lendemain qui chante.
Il déclare que la guerre va se continuer en Angola jusqu'à la libération totale du peuple angolais de l'impérialisme international.
Agostinho Neto apparaît en costume sombre et pas en treillis, malgré les circonstances, toujours sur RFI.
Les Angolais ont depuis cette nuit un président de la République. C'est un médecin de 53 ans, Agostinho Neto, qui a dirigé jusqu'à maintenant le mouvement populaire de libération de l'Angola, le MPLA. La police à cheval a dû charger la foule à plusieurs reprises pendant son discours. On avait même disposé des batteries anti-aériennes autour de la tribune officielle. Une cérémonie en quelque sorte assez symbolique à cet égard de la situation qui règne dans le pays. Les troupes d'Agostinho Neto ne contrôlent plus que 7 des 16 capitales provinciales.
À la télévision française, Michel Bader brosse un tableau réaliste de la naissance du 47e État africain.
Le 11 novembre aurait pu être un jour de liesse en Angola, 47e pays d'Afrique, à accéder à l'indépendance. En fait, on se bat à 25 ou 30 kilomètres de Luanda. On se bat d'ailleurs dans tout le pays. On parle en Angola de congolisation, et il est un fait qu'une fois de plus, les grandes puissances s'affrontent ici par Africains interposés.
Congolisation. La référence est évidemment celle des violences qui ont secoué le Congo ex-belge en 1960. Une période marquée par l'assassinat de son dirigeant, Patrice Lumumba. Des événements encore bien présents dans les mémoires. Agostinho Neto est un président assiégé, dont on ne donne pas cher. Ses adversaires sont nombreux. Henry Kissinger, le secrétaire d'État américain, à peine sorti de la défaite américaine au Vietnam, s'embarque dans une autre opération clandestine de guerre froide. John Stockwell, un agent de la CIA en charge du projet Angola, quittera plus tard l'agence et racontera dans un livre dénonciateur, In Search of Enemies, l'ampleur des interventions clandestines. Au sud, le régime de l'apartheid envoie des conseillers auprès de l'UNITA, puis lance une colonne blindée à travers l'immensité angolaise afin de renverser le régime du MPLA. Au nord, enfin, Mobutu n'a pas dit son dernier mot avec le FNLA de Holden Roberto.
Nous allons nous battre par tous les moyens. Nous allons essayer de contrôler d'abord la population. Si nous tenons la population...
Le dos au mur, Agostinho Neto va trouver un allié inattendu, Cuba.
Si le MPLA est prêt à négocier, nous sommes prêts à négocier.
Des commandos cubains arrivent en Angola et sont immédiatement envoyés contrer les Sud-Africains dans le sud et le FNLA au nord. Puis un véritable pont aérien amène des milliers d'hommes de l'île communiste de la Caraïbe. Edward George, un chercheur britannique, apporte un éclairage déterminant et surprenant sur cet épisode de la guerre froide.
Le Kremlin n'avait aucune idée que des troupes cubaines étaient en route pour l'Angola avant que celle-ci n'arrive à destination. C'est une évidence.
Comme on dit à Cuba,
mieux vaut demander pardon après que la permission avant. Si l'intervention avait échoué, le régime castriste en aurait payé le prix. Mais une fois qu'il devint clair que les Cubains se battaient et gagnaient en Angola, les Soviétiques furent heureux d'autoriser et même de financer l'opération, notamment en termes d'équipement militaire. Le pari de Castro a ainsi porté ses fruits. Un nouvel État marxiste, livré sur un plateau à Moscou, avec en prime une défaite humiliante du régime Mobutu et de celui de l'apartheid, soutenu par la CIA.
Cette seconde guerre de libération, comme l'appelle le MPLA, prend fin en mars 1976. Les troupes sud-africaines se retirent d'Angola et regagnent la Namibie, alors aux mains de l'Afrique du Sud. Agostinho Neto consolide son régime, mais pour peu de temps. Un an plus tard, le démon de la division
s'empare de nouveau du MPLA. Une faction marxiste orthodoxe, dirigée par Nito Alvesh, tente un coup d'État contre le vieux dirigeant. Il échoue, mais le bilan est très lourd. On compte plusieurs milliers de victimes et un sérieux tour de vis du régime. Une nouvelle fois, la crise a un arrière-plan de racisme. Nito Alvesh, le jeune chef militaire noir, est accusé d'avoir soulevé les Noirs les plus pauvres contre les cadres métis ou blancs du MPLA. Agostinho Neto, le docteur Neto, le poète qui, à l'instar d'un Saint-Gor, rêvait des mots, doit mener bataille après bataille. Il perdra la dernière, le 11 septembre 1979, contre la maladie. Transféré à Moscou, atteint d'un cancer du pancréas, il a cru jusqu'au dernier moment qu'il s'en sortirait. De son lit d'hôpital, il a même convoqué une réunion de la direction du MPLA pour le jour de son retour à Luanda. Mais il ne quittera pas l'URSS vivant.
45 jours de deuil en Angola après la mort du président Neto. Il est mort dans la journée d'hier. Sa disparition laisse un vide qui sera difficile à combler en Angola, bien sûr, mais aussi dans toute cette partie d'Afrique.
La succession d'Agostinho Neto n'a pas été préparée. C'est finalement José Eduardo dos Santos, un ingénieur pétrolier formé en URSS, marié à une soviétique, qui est choisi. Mais les problèmes n'ont pas changé. Ni la nature autoritaire du pouvoir, ni les retombées de la guerre froide, ni le voisinage inquiétant de l'Afrique du Sud qui multiplie les ingérences. Dos Santos devra lui aussi affronter une guerre civile internationalisée et sauver son régime grâce à la présence cubaine. Celle-ci ne prendra fin qu'à l'issue de la guerre froide en 1991. La guerre civile, elle, se poursuit jusqu'en 2002, saignant le pays et sa population. Mais surtout, Dos Santos transforme le régime marxiste en nomenclatura pétrolière, détournant les profits de l'or noir. Sa fille, Isabelle, devient la femme la plus riche d'Afrique. Le népotisme devient la règle, jusqu'à son départ en 2017, après 38 ans au pouvoir. On est loin des idéaux défendus par Agostinho Neto et surtout loin des raisons pour lesquelles des centaines de milliers d'Angolais sont morts dans la lutte anticoloniale comme après l'indépendance. Nous retrouvons l'historien Yves Léonard, auteur d'un livre récent, « Sous les œillets, la révolution ». Pourquoi l'Angola, plus qu'un autre, s'est-il retrouvé le terrain d'affrontement de la guerre froide dans les années 70 ?
Alors, la situation, je dirais, à la fois géographique du pays l'explique en partie, le potentiel économique aussi, qui est important, et puis le contexte régional en Afrique australe. Donc ce sont ces éléments qui vont nourrir assez fortement ce clivage qui s'impose à partir de la révolution des œillets et ces tensions qui reflètent effectivement une guerre froide qui, durant l'année 1975, tend à se réchauffer quelque peu, puisque le dégel a lieu sur la scène internationale avec les accords d'Helsinki, qui sont signés au mois d'août 1975, et qui vont contribuer et qui vont avoir une influence aussi au Portugal sur le destin du processus révolutionnaire. Autrement dit, le Parti communiste va se retrouver de plus en plus fragilisé et isolé, parce que l'Union soviétique souhaite rester un petit peu en retrait. Et puis, il y a tout le contexte de l'Afrique australe, c'est-à-dire avec une puissance régionale, qui est l'Afrique du Sud, qui, elle, prend conscience des dangers que présentent les mouvements indépendantistes pour son propre devenir, autrement dit pour le maintien du système de l'apartheid, et qui va évidemment peser fortement tout au long des années 60. Un rapprochement même aura lieu avec le régime de Salazar en 1966-67, et ça va prendre une ampleur considérable avec cette crainte que ça fasse tache d'huile, et ce qui se passe dans le sud-ouest africain, la Namibie, ce qui se passe donc aux portes de l'Afrique du Sud, puisse peser sur le destin de ce pays.
Agostinho Neto a été confronté à tant de crises internes ou externes que sa vie a été un combat permanent. Quelle image en reste-t-il selon vous ?
Alors, On a célébré, si l'on peut dire, il y a quelques mois, le centenaire de la naissance d'Agostinho Neto en Angola, puisqu'il était né en septembre 1922, et donc il y a eu un cycle commémoratif qui est un assez bon indicateur, un assez bon reflet, bien que biaisé, les commémorations c'est toujours un peu biaisé, et qui nous dit en gros que voilà, c'est le père de la nation angolaise, il est dépeint comme un humaniste, comme quelqu'un qui avait une culture très grande, une pratique des langues aussi très très grande, très forte, un poète. Et donc c'est cette image du poète humaniste, fondateur de la nation angolaise, rassembleur en quelque sorte, avec évidemment en biaisant la réalité historique, qui est promue par les autorités en place en Angola, qui sont encore très liées avec le MPLA, malgré les évolutions depuis 2017. Donc c'est cette tonalité. Et donc c'est une personnalité dont on cherche à faire, à créer une image qui ne correspond pas pleinement à la réalité, parce que d'abord, toute sa lutte pour l'indépendance a été évidemment constellé, jalonné de tensions au sein du MPLA et évidemment avec les autres mouvements. Et puis même lorsqu'il est devenu président, le premier président de la République angolaise en 1975, il y a eu ce coup d'État, cette tentative de coup d'État en 1977 qui a conduit à une répression et à ternir aussi l'image de cet homme qui a tout fait pour incarner une espèce de d'homme humaniste poète qu'il n'était pas pleinement et dont l'histoire aujourd'hui montre à quel point c'était plus compliqué. Mais j'ai souvent en tête la Christine Messian, qui fut une des meilleures spécialistes de l'Angola et qui disait qu'en Angola même le passé est imprévisible.
L'Angola était le joyau de l'empire portugais en Afrique. Mais il a été ravagé par les guerres avant et après l'indépendance. Quelle est selon vous la responsabilité portugaise dans cette tragédie? Et y a-t-il un débat post-colonial au Portugal même?
Alors, le rôle, la responsabilité portugaise, évidemment, est indéniable. C'est-à-dire que, comme je le soulevais, le relevais tout à l'heure, la colonisation et la décolonisation sont les mêmes phases, enfin les deux phases d'une même médaille qui s'appelle colonialisme. Et donc, à partir du moment où cette colonisation portugaise a été ce qu'elle a été, c'est-à-dire non pas, comme la légende lusotropicaliste voudrait le dire, une colonisation douce, agréable, suave, de métissage œcuménique rassemblant les gens dans un respect mutuel, ça n'était pas ça, cette colonisation. Et surtout pas aussi dans les années 50-60, lorsqu'elle s'intensifie, et ce qu'on a appelé ce colonialisme tardif. Donc avec une colonisation aussi prégnante, aussi forte, marquée par 13 ans de guerre coloniale, il était difficile d'écrire un narratif et d'avoir, d'exempter de toute responsabilité le Portugal. Et aujourd'hui, le passé colonial au Portugal fait débat, fait problème. C'est-à-dire que c'est un passé qui ne passe pas, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des conflits de mémoire, des tensions que l'on observe dans la société portugaise. Pour autant, le débat sur la décolonisation elle-même, c'est-à-dire comment les Portugais ont procédé pour se sortir après ces années de guerre coloniale et pour sortir de la dictature et des guerres coloniales, à défaut d'être totalement œcuménique, consiste à dire que c'était la décolonisation du possible dans un contexte très difficile. En revanche, le passé loin et toute la présence portugaise en Afrique et particulièrement en Angola depuis le 15e siècle, mais de manière très périphérique, c'est-à-dire sur les bandes côtières, et c'est véritablement à la fin du 19e, début du 20e siècle que il y a une présence territoriale beaucoup plus forte, eh bien tout ce passé-là aujourd'hui effectivement est exhumé, fait l'objet d'intenses débats au Portugal, et j'en veux pour preuve une polémique récente à la place de l'Empire, Praça do Império, à Lisbonne, près du monastère des Jerónimos, qui a été rénové et où on voit ces écussons avec les différentes provinces d'outre-mer, comme on disait. C'était une place qui avait été reconstruite en 1940 par Salazar pour l'exposition du monde portugais, et à côté d'Aveiro, on voit Angola.
Merci Yves Léonard.
MCK, qui incarne la culture contestataire des Mousseke, les bidonvilles de Luanda. Il dénonce avec ironie le clientélisme. Pour être mieux logé, il faut s'engager au parti.
Što je izad i štruviru, cirku da mi zeli Pop de expressan portuguesa, coisa seria Se ne glesu u keua, tiro je beleza Na onde expressi, armado com palavci contra mi Não há defesa, quasi trinta
Décolonisation, une émission de France Inter. Chargée de programme, Fanny Leroy. Stagiaire, India Venmani. Documentation sonore, Anne-Lise Signoret, Ingrid Lecointe et Antoine Villose. Lecture, Eza Botto. Prise de son, Tiffany Battistel et Raphaël Rousseau. Mixage, Valentin Hazan. À la réalisation, Hélène Bizio.
Liberdade, nesse primeiro está a frase.
Liberdade,
Tamar Ross está a frase.
Liberdade,
trouxemos o som.
Liberdade,
improvisamos assim.
Liberdade,
nesse primeiro está a frase.
Liberdade,
Tamar Ross está a frase.
Liberdade,
trouxemos o som.
Liberdade,
improvisamos assim.
Liberdade,
oh 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 oh.
Liberdade,
oh 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 oh.
Manche quanto ansiedade. Primeiro, sou major, quem libertou, trouxe o sol de março, esperou, não se cansou, promessa, viu, não largou, mas que queimou, rimando, dando esse flow, quem te matou, reggae e pop com tom de caldeirada bem cozida, sem complexos, reflexos, realidade, sou o mambo deste jango, trago estragos às palavras e eu mastigo a maço, escrevo versos. Clássico, espontâneo, matemático Narro, improviso, a vida na Babilônia E a caneta entre os dedos mostra o efeito da maconha Analisa as rimas, se não tens medo e se vergonha Ponha as mãos no ar que das primeiro está no ar assim.
Liberdade, das primeiro está a frase
Liberdade,
Tamar Ross está a frase
Liberdade,
trouxemos o som
Liberdade,
improvisamos assim
Liberdade,
das primeiro está a frase
Com hip hop vem mudar as mentes de mentes incompetentes. Antes estou presente à tua beira, mesmo ausente. Alerta, frente, usar como armas o que aparece à minha frente. Unha, desta de rasgar cá por dentro. Tiro obscurantismo, ensino-te orgulhaste e a cantaste.
Liberdade na vida negra tem de chegar. Ter força, uma força armada. Cachupa, rica de madrugada. Minha luz, estrela, já armando giração. Expressão para unidade, valorizar nos amizade para sempre. Ultimamente já temos gente, é caça de mover para frente. Pega saias, ganha um braço, bico, escus, não oi, per nós. Minha tocha nessa industria de hip hop.
Liberdade, nas primeiro está a frase.
Liberdade,
Tamar Ross está a frase.
Liberdade,
trouxemos o som.
Liberdade,
improvisamos assim.
Liberdade,
nas primeiro está a frase.
Liberdade,
Tamar Ross está a frase.
Liberdade,
trouxemos o som.
Liberdade,
improvisamos assim.
Liberdade,
oh 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 oh.
Liberdade,
oh, 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 oh,
liberdade,
oh, 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 oh.